On est content de vous retrouver. J'ai, pendant le temps de prière, là, je ne vous voyais pas, mais j'ai cru reconnaître des voix connues, mais que je n'avais pas entendues depuis longtemps. Thérèse, content de te voir. Je ne sais pas comment j'ai fait pour reconnaître ta voix et ta prière, mais je l'ai reconnue. Merci. Bon, j'ai appris que tout s'était très bien passé les trois premiers dimanches d'août. Et voilà que je reviens et que rien ne marche. Alors on va faire comme Jonas, on va tirer au sort et puis ça va tomber sur moi, il faut me jeter à l'eau. Alors. Bon, non, vraiment content, on est allé rendre visite à l'église de Pau, notre ancienne église, avant d'arriver à Cannes. Donc vous avez les salutations de l'église évangélique libre de Pau, et qui va bien, mais on est vraiment content d'être... Entre Cannois, ou presque, ici dans le sud-est, avec les chanteurs, les musiciens, puis vous. Alors, moi, comme on est encore en période estivale, alors, quel lien entre ces deux passages bibliques? Premier passage dans 2 Samuel 6. Quel est le lien entre les deux passages? Lorsque le coffre de l'Éternel arrive à la cité de David, de Saül regardait par la fenêtre, elle vit le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Alors elle conçut du mépris pour le roi, pour son mari David, dans son cœur. David rentra chez lui pour bénir sa maisonnée. Alors Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et s'exclama: « Ah, vraiment, le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui. » Alors c'est ironique, hein. Il s'est exhibé à demi-nu devant de ses serviteurs, comme aurait pu le faire un homme de rien. 2 Samuel 6, c'est l'histoire de David et Michal, sa femme, et c'est dans l'Ancien Testament. Ok, deuxième texte, qui est dans 1 Corinthiens 6. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les aliments, certes. Cependant, un jour, Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduit. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur, il nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Ignorez-vous que vos corps sont des membres de Christ? Vais-je donc arracher les membres de Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas. Ou bien, ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle, car il est écrit « Les deux ne feront plus qu'un ». Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. C'est pourquoi fuyez l'inconduite sexuelle, tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ou bien, encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Ça, c'est un extrait de la lettre que Paul adresse aux chrétiens qui sont à Corinthe, chapitre 6, et ça, c'est le Nouveau Testament. Alors, quel est le lien entre les deux, textes? À part qu'ils sont tous les deux le chapitre 6 d'un livre. Oh, je sais que vous êtes encore en vacances. Allez, le lien, c'est le corps. Dans le premier texte, David, il loue le Seigneur, il gesticule dans son corps, il danse dans son corps, il exprime sa joie. Son corps, il est à moitié nu, je suppose la moitié supérieure, enfin j'espère. Et il danse, et il a le mépris de sa femme. Mais il est avec son corps, et dans le deuxième, on parle aussi du corps. 8 fois le mot corps dans l'épître de Paul aux Corinthiens, mais avec quelques mises en garde. Alors on a beaucoup parlé du corps pendant les Jeux Olympiques, vous savez, ça c'est mon préféré. Jesse Owens, enfin, il était en 1936 à Berlin et il a gagné 4 médailles d'or au nez et à la barbe d'Hitler et tous les bons ariens qui étaient là présents. Et j'aime bien son mollet, là, bien saillant, là. Vous le voyez, son triceps sural, là. Ouais, il y a 3 muscles dans le mollet, là. Il est beau. Bon, Yvonne, mon épouse, a une préférence pour les décathloniens. Yvonne, si tu veux bien même mettre ta préférée. Quoi. Elle me l'a dit. Alors là, ce sont des Français. Elle préfère les Américains, je ne sais pas pourquoi. Et moi, ma préférence va vers les joueuses de rugby de l'équipe américaine. Regardez celle-là. Elle s'appelle Ilona Maher. Elle fait 1m78 pour 91 kilos. Mais elle est d'une grande élégance. Elle allie puissance et dextérité et rapidité. Et ce qui est intéressant, elles ont gagné la médaille d'or, non, rugby à 7, je ne sais plus qui a gagné, non, je crois que c'est... Bon, bref, peu importe. Et c'est intéressant, elle est dans les réseaux sociaux, Ilona, elle est bien au-dessus d'Antoine Dupont, notre rugbyman préféré à tous, en termes de followers ou je ne sais pas quoi. Et elle a dit qu'elle avait eu toujours des problèmes de surpoids. 91 kilos pour 1m78, mais au rugby ça va, mais dans la vie... Toujours un problème dans son rapport avec le corps. Et d'ailleurs, dans ses messages qu'elle reçoit, il y a eu de la grossophobie, comme on dit aujourd'hui, à son égard. Le rapport au corps. Le rapport au corps, ce n'est pas évident. Et quand on est chrétien, il semble que ça soit encore un petit peu plus compliqué. On est un petit peu comme des adolescents qui ont grandi trop vite et qui ne sont pas vraiment à l'aise avec le corps. Qu'est-ce que je vais faire avec ce corps ? Quelqu'un a remarqué ici dans l'assemblée, mais il n'est pas là aujourd'hui, que j'avais des longs bras. Vous avez remarqué ? Vous avez des traits un peu disproportionnés. Parfois, je marche dessus. Enfin, sûrement. Que faire avec ce corps ? On a grandi trop vite. Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais ? Est-ce que les pulsions du corps sont bonnes ou c'est mauvais ? On ne sait pas trop quoi faire. On ne sait pas par quel mystère, mais on est plus, en tant que chrétien, on est plus à l'aise avec l'âme, l'immortalité de l'âme. On parle plus du salut des âmes que du salut du corps. On ne sait pas trop quoi faire avec le corps. C'est une sorte d'objet un petit peu encombrant, de seconde zone, par rapport à l'esprit. L'esprit, le corps. Il y aurait comme une certaine méfiance par rapport au corps qui serait source de bien des ennuis. Je me souviens qu'un de mes enfants, après un bruit inconvenant fait à table, avait dit « c'est pas moi, c'est mon corps ». C'est mon corps qui est responsable de tout ce qui ne va pas. Et puis à l'inverse, nous avons cette phrase dans notre société qui revient souvent et qui dit « c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. » Une sorte de « c'est mon corps ». On en a parlé beaucoup pour l'avortement, pour les gens. « C'est mon corps, je fais ce que je veux ». En l'occurrence, je trouve que quand on porte un corps, c'est pas tout à fait son corps. Il y a un deuxième corps. Bref. Mais c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Alors, au nom de cette liberté de propriété, on arrive à un deuxième extrême, c'est vouer un culte au corps. Et comme on pouvait s'y attendre, les mouvements les plus douteux se sont saisis de l'affaire du corps, et ils ont fait du corps leur fonds de commerce. On voit de nouveaux gourous diététiciens qui vous proposent de retrouver le bien-être du corps avec des régimes amaigrissants, d'autres qui vous magnétisent à qui mieux, et qui vous proposent de remettre les chakras à l'endroit pour l'harmonie du corps, etc. Et puis il y a Arnold Schwarzenegger, bon c'est un peu vieux, mais depuis Conan le Barbare, on a vu Arnold Schwarzenegger qui a fini quand même gouverneur de Californie. Il était... Ah non, ça c'est une photo de moi à 18 ans, mais sinon c'est... Alors, voilà, le culte du corps. Alors, le culte du corps aussi, pour le maquillage, avant, après, bon bref, l'apparence, le corps, le culturisme et les marchands du temple. Alors, où situer notre corps dans notre foi, dans la vie chrétienne ? Alors, Paul va en parler aux chrétiens de Corinthe. Et pour vous rappeler, nous Faisons une série sur l'épître de Paul aux Corinthiens, écrite dans les années 50 du 1er siècle, à Corinthe, en Grèce, avec le canal de Corinthe, avec les jeux isthmiques de Corinthe. Et nous en sommes rendus à 1 Corinthiens 6, épisode 7, et voici le résumé des premiers épisodes. Voilà, quand Dieu nous appelle, 1 Corinthiens 1, et il nous appelle à quoi ? À être saints. Deuxième épisode, Christ est-il divisé ? Non, vivez tous ensemble en pleine harmonie. Épisode 3, Dieu serait-il fou ? Ah, la folie de Dieu, la sagesse des hommes, la folie de Dieu, le renversement, folie, sagesse. Dieu serait-il fou ? Ah, révision, c'est quoi le verbe ? À louer. Oui, il est fou, et il est tellement fou parce qu'il nous aime de cette folie de Dieu qu'on veut le louer. Allez, quatrième épisode, avis aux bâtisseurs, attention à comment vous bâtissez votre vie, avec du chaume, avec du bois, ou avec du béton armé, avec des pierres précieuses, dit la Bible. Et puis 5, et là c'est Dominique Brech qui en a parlé en juillet, le cœur du serviteur entre fragilité, obéissance et persévérance. Et puis épisode 6, chapitre 5, et là, discipline, avec un passage pas facile, ça c'était la semaine dernière je crois, et aujourd'hui, le corps a ses raisons. Alors je paraphrase un petit peu, ou je modifie, vous connaissez, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Le corps a ses raisons, trois petits points. Alors, il en parle aux Corinthiens, parce qu'ils n'avaient pas trop d'idées sur le corps, ils avaient des idées, mais le corps s'était un peu perdu dans toutes ces idées, et dans toutes ces idées, on peut en distinguer trois, ce qu'on pense du corps dans le milieu corinthien. Alors premièrement, il y a le courant qu'on va appeler idéaliste, parce qu'il ne s'intéresse qu'au monde des idées, et qu'il va mépriser le corps, ou tout simplement le laisser de côté. Il n'est pas important, et même à l'époque on disait le corps est le tombeau de l'âme. L'âme, le corps, le tombeau. Et puis deuxièmement, on peut parler et là c'est plus les chrétiens, les spirituels enthousiastes dans l'église de Corinthe qui sont convaincus d'avoir tout reçu de l'esprit, l'esprit avec un grand E, l'esprit de Dieu, et qui pour eux le corps était sans intérêt, sans avenir, et ce qu'on ferait avec serait sans importance puisque l'esprit s'occupe de tout. Ce que ferait avec son corps est sans importance. Et puis il y a comme partout les sceptiques qui disent et qui jouissent de la vie, on ne sait pas ce qui va arriver avec notre corps, avec notre âme, avec notre esprit, enfin avec tout, et on va se limiter à ce qu'on sait, à ce qu'on voit et à ce qu'on touche, à ce qu'on mange, et on va jouir de la vie. Et Paul va reprendre une expression de ces jouisseurs sceptiques qui disent « mangeons et buvons, remplissons notre corps de bonnes choses ». Car demain, nous mourrons de toute façon. Et on peut se retrouver facilement, il me semble, dans une de ces catégories ou un mélange des trois, même après 20 siècles qui nous séparent de l'un ou l'autre de ces courants. Et c'est dans ce milieu-là que Paul, ou à ce milieu-là, que Paul écrit dans les années 50. Alors, vous l'avez lu dans ce paragraphe, le sujet, c'est vraiment le corps. Mais il touche aussi au domaine de la liberté. Le texte commence par « tout m'est permis ». Certes, et vous savez, Paul, c'est un rhétoricien, il concède toujours. Tout est permis, et tout est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. C'est un slogan, « tout est permis » à Corinthe, où les chrétiens ont bien compris qu'ils n'étaient plus sous la loi, et plus sous la loi et ses 613 commandements, et qui donc en profitait largement. Et je rappelle, je ne sais pas si je l'ai dit, je crois, que Corinthe est une ville de grand libertinage, connue dans le monde entier, et même avec un verbe à l'époque qui se corinthianiser, qui veut dire se débaucher, sans quand canaille, bon, je ne sais plus, hein, hein, ouais, comme tu dis, Sylvie. Corinthe, un petit peu la Babylone de l'époque. Je vous rappelle cette histoire que mon père, quand il avait 20 ans, en Hollande, à La Haye, il a demandé à sa mère s'il pouvait partir en France. Il voulait faire un stage, il voulait apprendre le français. Et sa mère lui a dit, Madame Van Oma Van der Does lui a dit, tu peux aller en France, mais pas à Paris, parce que c'est la Babylone. Alors il est allé à Lyon. Alors je ne sais pas, il y a des Lyonnais ici, je ne sais pas si c'est moins babylonesque que Paris, mais Corinthe, c'était vraiment un endroit de débauche. Et le texte, quand il parle de débauche ou d'inconduite, utilise le mot porneia, qui a donné on sait quoi. Et donc les chrétiens de première génération habitent cette ville. Et ils se posent sans cesse la question, faut-il continuer à vivre comme avant ? Pourquoi arrêter la débauche si le corps n'a pas d'importance ? Ah ouais, bon, en voilà une question qu'elle est bonne. Et Paul va répondre à cette interrogation, il va le faire de manière très particulière. Il ne va pas se mettre sous la question du droit en établissant une liste avec les choses permises et les choses défendues. Non, il va entraîner les Corinthiens à aller plus loin, du côté de ce qui est utile, du côté de ce qui est bon, du côté de la liberté, certes on est libre, mais aussi de la vraie liberté. Et le verset 12, littéralement, « Tout est en mon pouvoir, mais je ne me laisserai pas sous le pouvoir de quoi que ce soit. » Paul invite ses lecteurs à considérer ce qu'il y a en jeu derrière la scène et il va donner des explications plus que des interdictions. Et pour parler de ce problème grave à Corinthe, donc Paul va parler du corps et il va dire que le corps a ses raisons, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué « et ses raisons », mais il a ses raisons que la foi connaît, que Dieu connaît, que Dieu lui-même connaît. Une théologie du corps, et je vous la livre en trois informations. D'abord, le Seigneur est pour le corps. Verset 13, vous l'avez entendu tout à l'heure, n'est-ce pas ? J'ai lu peut-être un peu vite, mais verset 13, le Seigneur est pour le cœur, le corps, pardon. Et il y a comme une approbation de Dieu sur le corps, il y a un oui de Dieu sur le corps, il n'y a pas de mépris à avoir pour le corps, ni méfiance, Dieu est pour le corps. Et cette approbation de Dieu sur le corps est manifeste à trois grandes occasions de l'histoire de l'humanité. La création. Au commencement, Dieu créa les corps. Un corps de femme, un corps d'homme, avec le souffle de l'esprit, mais avec des corps également qui faisaient des personnes identifiables. Et tout cela était très bon. Tof, en hébreu. En créant des corps féminins, et masculin, fait pour s'entendre, enfin pour essayer de s'entendre, des ish et des isha en hébreu aussi, des hommes et des femmes. Et tout cela reste très bon, malgré tout ce qui s'est passé dans le jardin, malgré cette révolte de l'homme par rapport à Dieu, malgré ce désir d'indépendance. Moi, je veux me faire calife à la place du calife, disent Adam et Ève. 1 Timothée 4:4, en effet, tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant. C'est bon parce que ça a été créé et voulu par Dieu, y compris le corps. Le premier oui de Dieu sur le corps, deuxième oui de Dieu sur le corps, c'est l'incarnation. Mais oui, Jésus-Christ, et le mot incarnation veut bien dire ce que ça veut dire, devenir chair, devenir carne, en italien, en latin. Homme-corps, c'est une incorporation, l'incarnation. Dieu devient homme, Dieu devient corps. C'est extraordinaire. Et le corps n'est pas un simple véhicule pratique, mais comme faisant partie de la personne de Jésus. Dieu a choisi l'incarnation parce qu'il est pour le corps. Et puis, troisième oui de Dieu sur le corps, c'est la résurrection. Une résurrection corporelle et qui annonce notre propre résurrection corporelle également. Comme Jésus l'a dit à ses disciples après sa résurrection, c'est bien moi. Vous voyez, quand il apparaît, c'est bien moi. C'est mon corps. Et la résurrection, Jésus, c'est vraiment le grand oui de Dieu à l'égard du corps. Avec elle, le corps prend de l'avenir. Avec elle, le corps a un devenir. Avec la résurrection des corps, il y a un projet de Dieu pour le corps et pour tous ceux qui attendent, comme dit Paul aux Romains, la rédemption du corps, en gémissant, hein, parce que ce n'est pas facile le corps. Il y a des maladies, il y a une corruption normale jusqu'à la corruption finale, mais nous attendons la rédemption, et pas de l'âme, du corps, avec tout le reste de la personne. Le corps participe au salut. Et donc, il y a vraiment une invitation à penser le corps, non pas à partir du passé, mais en fonction de son avenir. Et parce qu'il y a un oui, un trois fois oui de Dieu sur le corps, il faut bien penser que ce qu'on fait dans ce corps ne sera pas indifférent. Ce que l'on fait dans son corps importe pour la suite. Ce que je fais dans mon corps maintenant importe pour la suite. Le corps garde sa pertinence dans l'au-delà. Et donc Paul, comme application, on pourrait dire, invite les Corinthiens et tous les autres lecteurs après eux à ne pas négliger votre corps parce qu'il a un avenir. Il a un projet pour lui. Deuxième affirmation, ah tiens, j'ai oublié. Oui, c'est notre corps est pour le Seigneur. Première affirmation, le Seigneur est pour le corps. Deuxième affirmation, qui est dans le texte, verset 13, notre corps est pour le Seigneur. C'est inversé. Avec le mot Seigneur qui détermine bien la maîtrise, la seigneurie, la souveraineté. Seigneur, le kurios, l'empereur se faisait appeler Kurios. Là, Paul utilise le terme pour bien montrer qu'il est question de souveraineté. À qui appartient ce corps, pour finir ? L'autorité ou la question du propriétaire ? Alors, bien sûr, chacun possède un corps qui est le sien et qui lui est propre, mais celui qui se donne à Christ, c'est la définition du chrétien, qui se donne à Christ, qui devient disciple, qui se donne à Christ, se donne corps et âme. Âme, oui. Corps et âme. On ne peut donc pas revendiquer une autorité sur son propre corps. Dieu devient notre Seigneur sur notre corps également, c'est-à-dire le propriétaire non seulement de notre âme, mais aussi de notre corps. Et le titre de propriété se décline en trois actes. D'abord, Jésus est co-créateur de ce corps. La Bible dit que le Christ préexistant l'était avant toute la création. Tout a été fait par la parole, donc Jésus est Seigneur de notre corps. Il était là pour toute la création et la création de nos corps. Ensuite, parce qu'il a un droit de rachat, vous avez été racheté à un grand prix. Le prix, c'est son propre corps, pardon. Le don lui-même sur la croix pour le rachat de nos corps, un deuxième acte de propriété sur notre corps. Et puis troisièmement, il prend l'avenir de notre corps en charge par la résurrection, on en a déjà parlé. Et donc, le corps est pour le Seigneur et pour personne d'autre. Il est notre propriétaire et ce à plusieurs titres. Et on sait bien que dans la vie, on ne peut pas faire de travaux sans l'accord du propriétaire. On ne transforme pas sa salle de bain si on loue une maison en écurie pour son poney sans informer au moins le propriétaire. On ne peut pas faire n'importe quoi quand il y a un propriétaire. Surtout quand le propriétaire est le Seigneur de notre vie. Et je ne peux pas faire n'importe quoi avec ce corps dont je ne suis pas le propriétaire, mais qui est sous la seigneurie de Christ et dont Dieu est le propriétaire. Et dans le même ordre d'idées apparaît le verset 19 dans 1 Corinthiens 6, avec l'image du temple que Paul avait déjà utilisé pour parler de l'Église. Là, il parle « Ne savez-vous pas dit-il, que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Incroyable, le temple à l'époque, c'est quand même le temple de Jérusalem, c'est quand même le lieu de la rencontre avec Dieu, c'est un lieu saint, trois fois saint. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Paul utilise cette image extrêmement forte pour dire qu'il y a maintenant dans la vie des chrétiens de Corinthe un nouveau propriétaire qui s'appelle le Saint-Esprit. Et que nous sommes appelés à être, non pas, Yvonne, non pas des corps tombeaux, vous vous souvenez, des Grecs, le corps et le tombeau de l'âme, mais appelés à être des corps temples. Et ça change. Non pas des corps tombeaux, mais des corps temples. Et je crois que Paul, comme application, en affirmant la propriété du Seigneur Jésus sur notre corps, veut nous faire comprendre, aux chrétiens de Corinthe et à nous, que notre corps n'est pas une zone neutre ou une zone franche. Vous savez, les zones franches comme Andorre, où on peut faire tous les commerces sans taxes. Non, notre corps, notre comportement corporel n'est pas moralement indifférent. Il révèle qui nous sommes et à qui nous appartenons. Si Dieu n'est pas indifférent à l'égard de notre corps, on est appelé à ne pas l'être non plus indifférent. Voilà, une photo de bébé. Ils ont des beaux petits corps, les bébés. Et puis, troisièmement, le corps a ses raisons et le corps est pour la relation. Et ça se trouve dans les versets 15 à 18 quand Paul aborde de fond la question de la débauche, de l'inconduite sexuelle à Corinthe. Et on a du mal à suivre toute l'argumentation et on ne va pas entrer dans le détail, mais le point principal, c'est de dire que le corps est un moyen de communication extraordinaire. Un moyen d'entrer en relation extraordinaire, exceptionnelle. On parle du langage du corps. Hein ? On communique avec le corps, même parfois sans parler. Oui, le corps parle, le corps communique, il entre en relation. Et la plus intense, la plus fantastique de ces relations, c'est la relation sexuelle. C'est la relation physique. Et quand le corps s'engage dans cette relation, toute la personne s'engage. C'est ce qu'il dit, Paul. Ce n'est pas la relation sexuelle, ce n'est pas une relation indifférente. On ne peut pas dissocier la personne du corps. Les deux sont engagés dans la relation sexuelle. Et Paul cite cette parole de la Genèse, une parole fondatrice de la relation homme-femme. Les deux ne feront plus qu'un. Et j'ai pris une petite photo d'une personne d'un certain âge. Ben ouais, ne feront plus qu'un. Une union, plus qu'une union, une communion. Et c'est tout à fait remarquable de noter que Paul place la sexualité non pas au niveau des besoins, comme la nourriture, mais au niveau des relations. Et la relation sexuelle est une telle relation de communion et de communication et d'amour entre deux personnes qu'on ne peut pas prendre cette relation à la légère. On n'engage pas sa personne n'importe comment et avec n'importe qui. Et un verset que j'aime partager avec les jeunes, souvent, protège ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Et on pourrait remplacer le cœur par ton corps. T'as 16, t'as 15, 16, 17 ans, 18 ans, t'as ta sexualité qui... Mais protège ton cœur et ton corps, plus que toute autre chose, parce que ton corps engage toute ta personne. Et Paul aurait été d'accord avec Françoise Dolto, je ne sais pas si on la lit encore aujourd'hui, mais elle dit « Ceux qui se prêtent dans une relation sexuelle, qui se prêtent à l'un, à l'autre, à l'une, à l'autre, qui prêtent leur corps, ne font pas l'amour. C'est une parodie, c'est une mascarade d'amour. » Engager le corps sans discerner la personne, c'est porter atteinte à la personne humaine dans ce qu'elle a de plus merveilleux, être à l'image de Dieu. Et pour cela, c'est pour cela que Paul dit fermement « Fuyez l'inconduite, fuyez le libertinage, fuyez le corinthiennage, là, se corinthianiser, fuyez la pornéia, parce que l'on ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps, il engage non seulement ma personne, mais aussi l'autre personne. Et j'ai un devoir à son égard de la considérer également non pas comme un corps dissocié, mais comme une personne dans sa totalité, faite à l'image de Dieu. Je ne peux pas transformer mon prochain en objet, tout simplement. C'est ce que dit Paul, depuis longtemps. Je ne sais pas où j'en suis. Voilà, c'est une belle image. Et, alors attention, je ne suis pas en train de dire, et Paul non plus, ne le dit pas que le désordre sexuel serait le plus grave de tout le péché. Parce que s'il faut fuir l'inconduite, il nous est dit aussi qu'il faut fuir la jalousie et qu'il faut fuir la cupidité. Il ne s'agit pas de stigmatiser la sexualité. Ce qu'il est dit ici, dans 1 Corinthiens 6, c'est que la sexualité engage la personne. Plus qu'on ne peut le penser et plus que ne le pensaient les Corinthiens. Et le verbe utilisé, quand il est dit « s'unir à »,« devenir membre »,« s'attacher à », nous dit bien que la relation sexuelle n'est pas indifférente, elle engage toute la personne. Et quand la personne est engagée, alors les conséquences et que les cicatrices que cette relation peut-être mal vécue va laisser seront difficiles à effacer. Pas impossible, parce que la grâce de Dieu est à l'œuvre, qui guérit, qui reconstruit, mais difficile. Parce que le corps n'est pas indifférent, l'engagement du corps laisse des traces. Paul, application, veut donc amener les Corinthiens et tous les lecteurs après eux à préserver leur corps des dégâts personnels, et donc assumer leur corps avec un grand sens des responsabilités. Le corps engage la personne. Conclusion. La conclusion est facile puisqu'elle apparaît au verset 20. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. J'ai dit huit fois le mot corps dans huit versets. Glorifiez Dieu dans votre corps. Il s'agit pour nous d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre raison et de tout notre corps. En définitive, de toute notre personne. Alors, aimer Dieu de tout son corps, glorifier Dieu dans son corps. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pratiquement? Premièrement, dans le domaine de la sexualité, on en a déjà parlé suffisamment, une sexualité sécurisée dans le cadre d'une relation durable et exclusive, pour ne pas utiliser le mot mariage qui est un peu galvaudé aujourd'hui. Mais c'est quoi le mariage? C'est une relation exclusive et durable. Une vie sexuelle dans le cadre sécurité des personnes, le mariage. On glorifie Dieu dans son corps. Il y a aussi avoir une bonne hygiène de vie, sa façon de manger, de boire, de faire de l'exercice. Le corps n'est pas une poubelle. Alors, vous avez vu, j'ai pris 3 kilos pendant les vacances. Un petit peu trop d'apéritifs et voilà, hein, ça vient vite. Mais je reviens à Cannes, et déjà j'ai transpiré 2 litres là, donc glorifier Dieu dans son corps, c'est en prendre soin. Et puis, il y a être vigilant par rapport à toutes les dépendances, les excès d'alcool, de drogue, les excès de médicaments. On parle souvent des Américains avec les opiaciers là, mais on a en France, peut-être vous, des dépendances à l'égard des médicaments aussi, les antidouleurs. Glorifier Dieu dans son corps, c'est ne pas se laisser asservir par quoi que ce soit. Et puis, plus largement aussi, il y a le domaine de l'écologie, de la Terre, de la planète. Avec la Terre, notre planète, on est dans le domaine du sensible, de l'organique, comme le corps. Glorifier Dieu dans son corps, c'est aussi prendre soin du corps des autres, du corps de la création, du corps de la planète, de son environnement, ceux qui sont sous les sens, qu'on peut voir, toucher, sentir, goûter. Et puis, glorifier Dieu dans son corps, c'est aussi chanter de toutes ses cordes vocales à Dieu, c'est lever les mains vers lui, c'est danser comme David l'a fait devant lui sous le mépris de Michal, mais lui, on va dire, il s'en fichait pas mal. Il exprimait ses sentiments, ses émotions à Dieu dans son corps. Le Seigneur est pour le corps. Il est en faveur du corps. Notre corps est pour le Seigneur, destiné à lui appartenir. Notre corps est un formidable moyen d'entrer en relation avec les autres et avec Dieu. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole. Amen.